Nous sommes réunis donc ce soir pour évoquer la question de la mémoire. Une mémoire, une fois de plus, centrée sur une destruction. Je préfère d'ailleurs utiliser le terme de destruction que le terme de génocide, qui me semble peut-être moins correct. Il y a eu massacre. Il y a eu destruction. Et transmettre la mémoire de ce massacre, de ce qu'on appelle le génocide arménien, de cette destruction du peuple d'Arménie, est un impératif. Parce que transmettre est un impératif, non pas, et c'est peut-être la question qui va être posée aux différents orateurs, non pas tellement pour camper dans la destruction et le massacre, mais peut-être aussi pour savoir comment vivre le présent et l'avenir à partir de cette question. Il y a eu un massacre. Je ne vais pas trop monopoliser le temps de parole, d'autant que je suis là surtout pour passer la parole à ceux qui sont autour de cette table, mais je voudrais simplement dire combien pour le sujet est douloureux et impossible même à entendre, à symboliser un prédicat tel que celui-ci, le crime n'a pas eu lieu. Dès lors que quelqu'un qui est descendant ou collatéral ou proche d'une famille d'ancêtres massacrés, s'ils s'entendent dire « le crime n'a pas eu lieu, passons à autre chose », alors là, en effet, ce crime devient l'alpha et l'oméga de son existence. C'est un peu le premier point que je lancerai dans le débat. Le deuxième point que je souhaite lancer dans le débat serait celui-ci. Tout empire, tout pays qui se livre à un massacre d'une de ses minorités détruit sa propre légalité. Il se met hors la loi par rapport à ses propres lois. Je pense que l'Empire ottoman, je suis né dans une des provinces de l'Empire ottoman, Alexandrie, qui m'a permis il y a quelque temps, dans une autre assemblée telle que celle-ci, de rappeler que je suis né au pied de l'église arménienne d'Ibrahimeia, quasiment. Et je voulais dire que ce système du millet, qui avait autorisé 17 confessions chrétiennes, 3 confessions juives et une myriade de confessions musulmanes ou de rites musulmans de cohabiter avec plus ou moins de bonheur pendant quelques siècles, a été profondément déchiré et détruit. Et quelque chose a été détruit dans l'ensemble de cette région au début du XXe siècle. Et le point de départ a été ce massacre. Actuellement en France, j'ai reçu un excellent livre, Les Arméniens et leur territoire, de Martino Vanessian. Je crois qu'il y a, d'autres livres, évidemment, mais je viens de le recevoir, donc je vous souhaiterais le citer. 300 000 Arméniens en France, ou descendants d'Arméniens, qui ont eu leur histoire et qui vivent avec leur histoire. On les entend peu par rapport à d'autres communautés, à d'autres groupes, et je crois qu'il était très important de non pas de leur donner la parole, mais de leur donner la possibilité de prendre la parole, ce qui n'est pas la même chose. Voilà, je me réserverai d'intervenir au cours de la discussion. Je voulais simplement excuser Léon Poliakov qui n'a pas pu venir ce soir et qui nous a transmis des éléments de son exposé. Je lirai quelques phrases un peu plus tard. Et M. Marian, qui pour des raisons professionnelles a été dans l'impossibilité de venir tout de suite, mais qui nous rejoindra en cours de soirée. Je donne donc la parole à Yves Ternon, auteur de L'État criminel, les génocides au XXe siècle.
Massacre, oui, mais surtout génocide. Il y eut des massacres au cours de l'histoire des Arméniens. Il n'y eut qu'un génocide, et c'est de celui-là que je vais parler. Génocide parce que cette destruction que vous évoquiez est une destruction intentionnelle, voulue par un gouvernement organisé, prémédité, un plan concerté. C'est une destruction où chaque élément du groupe va être tué en tant que tel en raison de son appartenance au groupe. Et cette histoire que l'on m'a demandé d'évoquer, car si dans cette salle certains sont arméniens et la connaissent aussi bien que moi, d'autres ne la connaissent pas, donc il me faut la raconter. Cette histoire, c'est à la fois une histoire individuelle et une histoire collective. C'est la mémoire transmise de génération en génération par les grands-parents, aux parents, aux petits-enfants. Des histoires multiples, diverses et pourtant qui ne se ramènent qu'à un seul élément, la volonté intentionnelle, la volonté de détruire le groupe arménien. Comment en est-on venu là? Comment dans l'Empire ottoman, où coexistaient, comme le rappelait M. Hassoun, tant de minorités, sous un système inégal, certes inégal au départ, mais accepté, qui était celui de miettes de la communauté, de la dimitude, de l'obligé, l'obligé qui était à l'égard de la loi comme à l'égard de l'impôt inégal par rapport aux autres citoyens musulmans, aux autres habitants musulmans, parce qu'il n'y avait pas encore véritablement de citoyenneté, il n'y avait que des sujets. Or, cette inégalité entraîne quand même un régime de contraintes qui, au cours du XIXe siècle, devient de plus en plus perceptible à la communauté arménienne qui, éveillée à partir de quelques-uns de ses membres en Occident à au grand printemps des peuples qui secoue le début du XIXe siècle, le milieu du XIXe siècle, se rend compte que sa condition devient d'autant plus insupportable que la situation s'aggrave avec la corruption et l'extension du nomadisme kurde dans les provinces arméniennes. C'est alors que, las de porter ses revendications devant la sublime porte, c'est-à-dire le gouvernement ottoman, elle la porte à l'occasion de la guerre de 1876-1878 devant les nations européennes. D'abord au traité de San Stefano auprès de la Russie, puis au traité de Berlin en 1878. Et c'est alors que la question arménienne, pour le malheur des Arméniens, entre dans l'histoire. Elle devient partie intégrante de la question d'Orient et une de ses questions les plus difficiles et les plus complexes. Les Arméniens vont donc être protégés par les puissances qui, inaugurant, comme il l'avait déjà fait avec les chrétiens du Liban, la politique d'intervention dite humanitaire, utilise justement la présence de chrétiens pour pouvoir ingérer, pénétrer à l'intérieur des questions, des affaires ottomanes et en quelque sorte faciliter, développer leurs intérêts. Donc les Arméniens sont partie prenante au milieu d'une question politique complexe et qui les dépasse. Et le sultan, car c'est encore un empire, va tester un peu la sensibilité des nations en procédant à des massacres. Je dis bien des massacres, c'est-à-dire que l'on tue sur place de façon programmée, certes, mais en commençant et en s'arrêtant afin de faire comprendre aux Arméniens qu'ils ont cessé d'être ces sujets fidèles, ce miette obéissant qu'ils étaient jadis. Et les puissances ne réagissent pas comme les Arméniens auraient pu s'y attendre, elles réagissent modérément, donc le sultan sait qu'il peut aller un peu plus loin. C'est ainsi qu'entre 1894 et 1896, 200 à 300 000 Arméniens sont victimes de cette situation. Puis le vent tourne. Le nationalisme turc s'éveille et l'Empire ottoman devient un empire constitutionnel, si je puis dire, c'est-à-dire qu'à l'occasion d'un putsch en juillet 1908, un parti, le Parti Union et Progrès, entame sa marche vers le pouvoir et la constitution, promise déjà depuis 1978, est rétablie. Les Arméniens ont participé à cette action révolutionnaire. Ils ont été les alliés des jeunes Turcs dans la clandestinité et paraissent installer à la satisfaction des nations de 1908 à 1914 un État qui pourrait présenter des aspects démocratiques puisque un certain nombre des réformes sont en effet réalisées. Elles sont d'ailleurs insuffisantes puisque en 1914 il faut reposer la question des réformes et l'Empire ottoman se retrouve à nouveau sous la tutelle de la Russie en février 1914. D'autre part, de 1908 à 1914, l'Empire ottoman s'est trouvé restreint dans ses possessions territoriales en Europe, c'est-à-dire qu'il ne reste plus qu'une petite languette de territoire allant de quelques dizaines de centaines de kilomètres carrés autour de Constantinople, et tout l'ensemble balkanique a disparu, avalé par les indépendances ou les appétits de l'Autriche-Hongrie. Si bien que, en 1914, lorsque la guerre éclate, la situation s'est radicalement transformée à l'intérieur même de l'Empire ottoman. Car un nouvel élément est apparu, c'est l'idéologie jeune turque. Idéologie qui n'est pas très nette au départ. En 1908, il y a deux aspects idéologiques. Les uns, héritiers d'une tradition parisienne d'ailleurs, de Pierre Lafitte, du positivisme, pensent que l'on peut réaliser l'ottomanisme, c'est-à-dire l'union des différentes minorités à l'intérieur de l'Empire. Mais les autres, venus d'Asie centrale, plus radicaux, pensent que l'heure est venue de réaliser l'union des Turcs et c'est alors que le mythe entre en jeu. C'est alors que l'on rappelle un passé glorieux, comme on l'a rappelé à d'autres occasions pour les Germains ou à d'autres occasions pour les Slaves. On rappelle un passé glorieux d'une Turquie précédant les grands siècles de conquête et l'on pense que l'on peut justement reconstituer en Asie cette Turquie, que le destin de la Turquie est réellement asiatique. Et lorsque l'on regarde une carte, on s'aperçoit qu'il ne reste plus qu'un obstacle. Ce sont malheureusement pour eux les Arméniens qui se situent sur la route de cette reconquête, c'est-à-dire entre l'Anatolie et l'Azerbaïdjan, ce qu'ils sont d'ailleurs encore aujourd'hui. Et à la faveur de la Première Guerre mondiale, lorsque la Turquie se range aux côtés des puissances centrales, un conflit qui existait au sein de ce comité Union et Progrès, qui est un parti, vraiment un des prototypes des partis totalitaires, qui est dirigé par un comité central, ce conflit évolue. Il y a à l'intérieur du comité des gens qui veulent que l'on tue les Arméniens, que l'on règle ce problème rapidement par l'anéantissement des Arméniens. D'autres hésitent. Et puis, après le premier désastre, le désastre de Sérikamish sur le front turc, on constate qu'il faut un bouc émissaire, qu'il est tout trouvé, qu'on a l'occasion, qu'on a l'opportunité de détruire définitivement les Arméniens et de régler la question arménienne. C'est alors que dans un petit comité est conçu, très intelligemment sur le plan de la technique, dans la plus grande déréliction de la morale bien entendu, un projet qui vise à éliminer totalement les Arméniens de l'Empire ottoman. Et ce projet est tellement bien conçu qu'au départ, il inclut la future négation. La négation est tissée dans le plan et on la retrouve encore aujourd'hui impossible à redéfaire dans ce nœud si bien fait. En effet, on fait tout secrètement. On organise un comité, un groupe qui s'appelle l'organisation spéciale avec des détenus libérés des prisons, coiffés par des secrétaires généraux, des secrétaires régionaux qui vont être responsables de chaque province et qui vont être chargés d'organiser la destruction des Arméniens. On camoufle tout cela sous le projet d'une déportation loin du théâtre de la guerre, parce qu'on considérera les Arméniens comme une population suspecte, une population non fiable. Et alors, tout s'enchaîne. Les soldats arméniens, car les Arméniens avaient été nombreux à s'engager dans l'armée, à la demande d'ailleurs de la conscription, sont d'abord désarmés dans le mois de février 1915, puis le 24 avril, on décapite la nation arménienne, on tue ses notables, on les déporte, 1500 personnes environ à Constantinople les 24 et 25 avril. Puis, dans chaque province, dans chaque village, dans chaque région, de manière vraiment systématique, on retrouve toujours le même processus. Dans les villages, très loin de tout, très loin de tout témoignage, on tue en général tout le monde. Mais dans les villes, on arrête d'abord les notables pour leur faire avouer un faux complot, puis ensuite on donne un ordre de déportation, les hommes sont séparés des femmes et des enfants et des vieillards, les hommes sont repris par petits groupes et tués assez rapidement, comme l'avaient été les soldats au mois de février, après le mois de février. C'est donc partant des six vilayets orientaux, après une large vague d'extermination, un ensemble de convois, de femmes, de vieillards, d'enfants qui, dans la chaleur de l'été, dans le dénuement complet, sans nourriture, sans eau souvent, vont converger vers Alep, qui est le lieu terminal de la déportation, mais ils n'y arriveront pas, car justement l'organisation spéciale a veillé à ce qu'ils n'arrivent pas. Ils sont assassinés soit par les tchétés, c'est-à-dire les bandits de l'organisation spéciale, soit par les gendarmes eux-mêmes qui sont chargés de les garder, soit par les populations turques, au passage des villes, soit même par des nomades kurdes, pillés, volés, assassinés. Et donc, au mois de juillet, en trois mois, on règle le problème pour les six vilayets orientaux, les sept si l'on ajoute celui de Trébizonde, les sept provinces donc. Et c'est alors la seconde étape de la déportation, déportation qui, elle, est beaucoup moins exterminante, si je puis dire, puisque l'on va réellement déporter la presque totalité des habitants. Quand on a pu, pour une région comme Angora, c'est-à-dire l'actuelle Ankara, vérifier, on s'aperçoit que c'est environ 90 à 92%, on a les chiffres exacts sur 70 000 personnes, qui vont être déportées. Ils vont être déportés alors le plus souvent par chemin de fer, quand ils peuvent accéder à la voie du Berlin-Bagdad, déportés l'automne, l'hiver, et arriver à Alep, où là il y a deux voies, l'une qui mène vers le sud, où certains survivront dans des camps de fortune, et l'autre vers l'est, c'est-à-dire vers les déserts de Syrie et de Mésopotamie, où s'ils ne sont pas exterminés en route ou morts de faim le long de l'Euphrate, ils disparaîtront dans les déserts ou tués pour les derniers en juillet 1916 à Deir ez-Zor. Il s'agit donc, sans que l'ombre d'un doute puisse être émise, sans qu'aucun doute subsiste, d'un acte intentionnel, d'un génocide, qui est affirmé par des milliers de témoignages, et en tout cas par des dizaines de témoignages consulaires qui n'ont pas été, qui ont une valeur synoptique, qui ont été établis différemment, remis discrètement aux ambassades, et qui, dépouillés après la guerre, redonnent le même récit. Ce récit que je viens de vous faire résumer, c'est le même récit qu'ont fait tous les consuls. Et ce génocide est affirmé à la face des nations en 1919, lorsque le gouvernement jeune turc ayant cessé, les jeunes turcs ayant étant partis, un autre pouvoir s'installe à Constantinople et des procès sont intentés, non pas par les vainqueurs qui auraient bien voulu le faire, mais les Turcs voulaient eux-mêmes faire ce procès pour se présenter innocents pour le peuple turc à la société à Versailles, à la conférence de la paix à Versailles. Et donc on fait ces procès, les documents sont abondants, apportés même de sources turques, et les principaux responsables sont désignés, ce sont les dirigeants du comité Union et Progrès, et en particulier tous les dirigeants de l'organisation spéciale. Et c'est alors que l'histoire changeant, alors que le traité de Sèvres lui prévoit déjà une punition de ce crime qui n'a pas encore bien entendu le nom de génocide puisque le nom apparaît qu'en 1944, c'est alors que le vent tourne, le vent de l'histoire tourne. Le traité de Mudros avait laissé des armes et la possibilité d'une armée aux Turcs qui, dans l'Est anatolien, se reconstituent, refont surface, reconquièrent au sud la Cilicie aux Français qui l'occupaient, puis reprennent l'Anatolie aux Grecs et obtiennent à Lausanne, en juillet 1923, un traité inespéré qui règle définitivement la question arménienne. On ne parle plus de la question arménienne. On la croit donc enterrée. Les Arméniens qui survivent, c'est à peu près un tiers de la population arménienne qui survit. Je ne veux pas donner trop de chiffres, ce n'est pas par le nombre que l'on caractérise un génocide, mais par la nature du crime. Les Arméniens qui survivent à travers le monde ont trop à faire pour justement reconstituer des familles et leur donner de quoi vivre, pour que l'on en parle trop, et la période de 1920 à 1940, 1945, est d'abord faite dans le milieu arménien, justement, de cette reconstitution d'une communauté, de cette mémoire transmise individuellement, mais certainement pas collectivement, d'une génération à l'autre, tandis que la Turquie, elle, consolide sa négation et s'installe dans cette négation en éliminant quasiment non seulement les Arméniens de l'histoire immédiate, mais de l'histoire ancienne, en faisant pratiquement disparaître les Arméniens de l'histoire, comme ils ont fait disparaître récemment les Kurdes de leur propre histoire. Et cette historiographie paraît avoir réglé la question arménienne. Lorsque le mot génocide arrive sur le terrain du droit d'abord, de l'histoire ensuite, lorsqu'à travers ce que l'on appellera plus tard la Shoah et ce que l'on mettra du temps à concevoir d'abord, à comprendre ensuite, à tenter d'expliquer enfin, les Arméniens comprennent que ce qui leur est arrivé n'est pas la même chose, mais que c'est voisin, que c'est proche, que c'est un crime de même nature en tout cas, que c'est un génocide. Et tandis que s'affirme, surtout à travers la troisième génération, cette volonté de reconnaître le génocide et de le faire reconnaître par les nations, la Turquie, elle, adapte sa position de négation aux différentes évolutions de l'histoire. D'abord, elle fait intervenir cette négation comme une arme politique. Chaque fois qu'un Arménien, qu'un groupe arménien, qu'une communauté arménienne prononce le mot génocide, il y a vigilant un Turc pour le nier. Et cette négation remonte très rapidement au niveau des ambassadeurs, donc au niveau des interventions entre nations. C'est un jeu terrible qui est vécu très vite par la communauté arménienne comme une seconde mort, comme une négation d'identité, et qui débouche dans les années 75 à 83 sur une réaction violente, ce que l'on a appelé la lutte armée, ce qui est en fait un terrorisme, et qui a abouti à des excès, vite rattrapé d'ailleurs par une partie de la communauté arménienne qui comprend qu'il faut porter ailleurs la discussion sur le plan politique. Donc, à cette première période succède une période politique, de volonté de reconnaissance de la question arménienne sur le plan international, à l'ONU d'abord, au Parlement européen ensuite, à l'intérieur de chaque nation enfin, et cette recherche progresse chaque année. Un nouveau pays ou plusieurs nouveaux pays viennent reconnaître l'événement que l'on appelait massacre comme un génocide, donc le qualifie vraiment avec ce poids de l'incrimination de génocide, tandis que la Turquie essaye justement de contourner, car il faut savoir que l'un comme l'autre, Arméniens et Turcs, ont un besoin vital de l'un l'affirmation de ce génocide, l'autre la négation de ce génocide. Chacun a fondé son identité sur ce génocide, et c'est bien cela ce qui fait problème, car tandis que les Arméniens ne peuvent pas parler d'autre chose que de génocide, puisque de génération en génération, ce besoin identitaire devient plus urgent, plus douloureux, plus violent, tandis que la Turquie a aussi fondé cette identité sur cette quête territoriale, sur cette conquête territoriale, et elle s'enferme dans cette négation. Donc c'est actuellement, à travers les différentes péripéties de la lutte entre affirmation du génocide et négation du génocide, une question qui gagne les milieux universitaires et qui est extrêmement perverse, car justement, s'il y a un autre mot que celui de génocide à propos de cette affaire arménienne de 1915 et 1916, justement, s'il y a un autre mot, c'est justement une concession à cette négation turque. Donc, je persiste et signe de mon côté en disant que ce qui s'est passé en 1915 et en 1916 dans l'Empire ottoman, cette destruction des deux tiers au moins des Arméniens, était bien un génocide.
Merci Yves Ternon de nous avoir rappelé les étapes cruciales de ce génocide. Si j'ai insisté tout à l'heure sur le terme de destruction, c'est bien parce qu'il y a eu peut-être parfois une inflation autour du terme de génocide, mais je prends acte en effet que l'enjeu de ce terme est important. dans la volonté de destruction systématique et absolue du peuple arménien. Maintenant, je souhaiterais donner la parole à M. Michel Marian, qui, je crois, poursuit la logique développée par Yves Ternon et qui vient de nous rejoindre.
Merci. Je vous prie de m'excuser. J'ai été retenu par des obligations. Je crois avoir compris que Yves Ternon a développé de la façon aiguë et précise qu'on connaît le schéma du génocide, et je vais peut-être un peu développer plutôt sa deuxième partie, c'est-à-dire après le génocide, je pourrais appeler ça peut-être les trois vagues de la mémoire du génocide. La première vague ou la première étape, c'est le génocide comme privation de mémoire ou comme confusion de mémoire. Le premier résultat d'un génocide, c'est qu'il coupe le fil de la vie, et en l'occurrence, puisque le génocide détruit un groupe, qu'il détruit une société, une manière de vivre, des habitudes, des symboles, une langue. Et c'est bien ce qu'a fait le gouvernement jeune turc en éliminant toute société arménienne d'Anatolie, là où elle était installée depuis des siècles, peut-être des millénaires, avec évidemment des formes culturelles qui avaient évolué au cours du temps, mais sans doute aussi un maintien de choses très anciennes. Tout cela a été réduit à néant. Bien sûr, il reste quelques Arméniens en Turquie, mais ils habitent pour l'essentiel à Istanbul. Donc cette vie de petite ville et de campagne en Anatolie a disparu complètement. Et c'est la première privation de mémoire. Il y a eu des survivants, bien sûr, un tiers à peu près, disait Yves Ternon. Ces survivants sont partis en exil, et en exil, évidemment, dans un autre type de société, souvent dans les pays d'Occident, quelquefois aussi en Union soviétique. Et la deuxième privation de mémoire, c'est plutôt peut-être une sorte de confusion de mémoire. Je dirais qu'il y a eu, il y a encore peut-être, lorsqu'on essaie d'analyser la blessure ou la perte que les Arméniens ont subie, une confusion des sentiments, parce que dans les mêmes personnes, ces survivants, étaient mélangés à la fois la blessure unique qui est celle du génocide, c'est-à-dire d'avoir risqué de tout perdre en étant membre d'un groupe mis à l'index, proscrit et destiné à être détruit, cette blessure unique, et quelque chose de plus commun, quoique de douloureux, qui est le déracinement qui a pu conduire beaucoup d'autres populations d'Orient en Occident. Et quelquefois, on peut confondre les deux, puisque en fait, les deux souffrances, l'unique et la générale, se sont surajoutées chez les mêmes personnes, chez cette fameuse première génération dont parlait Yves Ternon. Et puis il y a un deuxième niveau de privation de mémoire, c'est la perte de, alors là moins pour les Arméniens que pour le monde environnant, la perte de la mémoire, de la qualification du crime, de l'ampleur du crime. Alors Yves Ternon on a donné les raisons, le déni de ce crime par les successeurs du gouvernement jeune turc, et l'acceptation finalement de ce déni par la communauté internationale, ce qui a fait que l'ampleur de ce crime, la gravité des souffrances infligées aux Arméniens, qui était encore très présente chez tous les hommes d'État ou les penseurs au moins européens et américains tout de suite après la Première Guerre mondiale, chez Churchill, chez Wilson, chez Clemenceau, chez beaucoup d'autres, progressivement c'est amenuisé, a disparu, et la qualification de ce crime, mais même le souvenir de ce crime, s'est progressivement marginalisé jusqu'à devenir quelque chose de totalement absent de la conscience, j'allais dire, de l'homme cultivé d'Europe ou d'Amérique. Et puis il y a un troisième niveau de privation, une sorte de redoublement de privation qui a été une sorte de redoublement à la fois psychologique et politique. Psychologique d'abord, parce que pour les survivants, il y avait une hésitation très forte entre remémorer, garder le deuil, et puis la pulsion de vie, oublier, s'adapter pour survivre. Et cette adaptation pour survivre, elle était à la fois tout à fait nécessaire, puisque je l'ai dit, les sociétés d'accueil étaient très différentes de la société dont on avait été déraciné, mais également elle était aussi très, très attendue, très préparée culturellement, parce que les Arméniens étaient des chrétiens, et finalement tous ces chrétiens d'Orient depuis quelques siècles avaient une image très positive, presque paradisiaque des sociétés occidentales, et donc il y avait aussi toute une part d'eux-mêmes qui voulaient profondément s'adapter dans ces pays d'accueil, ce qui veut dire que, à la différence peut-être d'autres communautés, il n'y avait pas de résistance culturelle il n'y avait pas d'acrimonie culturelle non plus contre ces pays d'Occident, donc rien qui fasse barrage à une volonté d'adaptation qui soit aussi en partie oubliée. Et puis enfin, il y a eu d'une certaine façon une forme d'oubli politique. Je veux dire que le génocide, dans son ampleur, a été privé de sa capacité d'ébranlement par les deux interprétations politiques qui prévalaient dans les communautés arméniennes des années 30, 40, 50. Les deux interprétations, c'était celle des communistes d'un côté et celle des nationalistes de l'autre. Pour les communistes, il n'était pas bon de rappeler les haines nationales qui avaient pu conduire au génocide, et la priorité était de construire l'avenir. Alors là, de construire l'avenir dans cette Arménie soviétique, avec toutes ses limites, mais avec un mouvement, une attitude qui, par certains côtés, rappelle des choses qui ont pu exister en Israël au début par rapport à l'Holocauste. Donc le fait de considérer qu'on n'avait pas à se tourner trop vers le passé, vers la vie ancienne, et qu'on avait un avenir à construire. Bien entendu, là, l'État n'était pas du tout indépendant, hein, et ça correspondait aussi à un souci général de l'Union soviétique, de bonnes relations avec la Turquie. Et puis l'autre interprétation, c'était l'interprétation nationaliste, qui, à un moindre degré, avait tendance aussi à minorer ce qu'il y avait de particulier dans le génocide. Parce que pour les nationalistes, le génocide, ça avait été une défaite, mais cette défaite avait été suivie d'une forme de victoire diplomatique qui avait été le traité de Sèvres, dont les Arméniens avaient été malencontreusement, circonstanciellement privés. Et l'essentiel de leurs efforts était de revenir au traité de Sèvres. Et donc le génocide, lui, n'était qu'une étape vers ce traité de Sèvres, vers lequel il fallait revenir. À mon avis, tout ceci explique pourquoi il y a eu une sorte de privation de mémoire, au moins au niveau apparent, explicite, pendant une bonne trentaine d'années. Et puis la deuxième vague, ça a été celle de la résurgence de la mémoire sous la forme d'un cri. Évidemment, cette résurgence de la mémoire, elle s'appuyait sur quelque chose qui avait traversé les décennies. D'abord, un rituel. J'ai vu que le titre du cycle, c'est « Mémoire entre rituel et occultation ». Il y avait quand même une force sociale, une institution qui avait maintenu, qui avait tout de suite décidé qu'il fallait remémorer le génocide, et c'était l'Église. L'Église arménienne, dès le début, a fait du 24 avril une date qui ne pouvait pas être comme une date de mémorial. Alors bien entendu, elle avait peut-être, enfin comme beaucoup d'autres églises, mais comme elle en particulier, une capacité à transformer des dates douloureuses en mémorial, douloureuses ou porteuses d'espoir, puisque l'église arménienne commémore aussi une défaite des Arméniens contre les Perses il y a 15 siècles, mais une défaite qui était porteuse d'espoir. Donc d'une certaine façon, elle a repris cela en ayant ce rituel du rappel le 24 avril de ce qui était arrivé aux Arméniens. Et ce rituel a servi de support à partir des années 60, lorsque des transformations politiques, mais sociales aussi, se sont opérées dans la communauté arménienne à partir du moment où une sorte de décantation s'est opérée entre ce que j'appelais le déracinement, la volonté de survivre d'un côté, et puis le souvenir spécifique du génocide. Il y a eu des déceptions politiques, aussi bien chez les nationalistes dans leur, par rapport à leur objectif du traité de Sèvres que chez les communistes par rapport à l'idée d'une Arménie... d'une Arménie libre. Et il y a eu aussi une forme de réussite de l'intégration dans les pays d'accueil. D'ailleurs, aussi bien dans les pays occidentaux que dans des pays orientaux comme le Liban des années 60. Et cette réussite de l'intégration a amené ce que j'appelais cette décantation, c'est-à-dire que l'intégration n'était plus une conquête difficile à effectuer, et au contraire, elle éloignait du souvenir de l'origine de cette diaspora, et il y a eu donc une sorte de ravivement du sentiment de la perte qui s'est traduit par une exigence de réparation morale. C'est cette exigence de réparation morale qui s'est traduite par des recherches historiques, des débats au sein des communautés arméniennes à partir des années 60, et qui a culminé dans ce cri de reconnaissance du génocide. Alors, bien entendu, ce cri de reconnaissance du génocide n'était pas qu'un cri, c'était un mot d'ordre politique. Il a été favorisé par la décision des Nations Unies en 1968 de signer une convention sur l'imprescriptibilité du crime de génocide, qui a été interprétée par les Arméniens comme finalement une issue par rapport à l'usure du temps, à la stabilisation des rapports de force en faveur de la Turquie, qui avait escamoté leur droit à sanctions et à réparation. Ça a été interprété. Il y a eu aussi des calculs politiques, aussi bien des nationalistes que des communistes, pour faire de cette reconnaissance du génocide une sorte de levier pour une reconquête de territoire. Mais le calcul politique, je crois, surtout quand on le revoit maintenant avec 20 ans, 25 ans de champ, le calcul politique était peu de choses par rapport à ce besoin de reconnaissance, puisque c'est le mot qui était utilisé, ce besoin de reconnaissance et cette reconquête d'identité et de mémoire qui émanait des couches profondes des sociétés arméniennes travaillées par l'acculturation aux sociétés occidentales ou à certaines sociétés orientales assez occidentalisées, comme la libanaise. Aujourd'hui, on entre, je crois, dans une troisième phase qui est celle de la réintégration du génocide. Alors, réintégration du génocide, cela veut dire plusieurs choses. Cela veut dire d'abord que le génocide est devenu le ciment spécifique de la diaspora. Et il l'est devenu d'autant plus que les liens passés se sont affaiblis, distendus. Les liens religieux, les liens linguistiques, et même ceux qui souvent résistent le plus, quel que soit le spiritualisme qu'on peut avoir, qui sont les liens culinaires. Tout ça, c'est un peu à diminuer. Et ce qu'il y a de devoir moral, d'impératif, finalement universaliste, dans ce cri de reconnaissance du génocide, a pris de plus en plus de poids comme signe de reconnaissance entre Arméniens. Bien entendu, il n'est pas le seul, surtout depuis qu'il existe une Arménie indépendante et que le lien avec l'Arménie indépendante a aussi une relation d'aimant pour les communautés arméniennes. Mais il reste, je crois, le principal. La deuxième raison, c'est que le déni turc, maintenu sous les formes qu'adit Yves Ternon, a été un piège, mais aussi stimulant. Alors, il a été en partie un piège, parce que cette contrainte qu'ont les Arméniens a adopté toujours la forme du procès, de l'argumentation juridique, pour faire valoir quelque chose qui, en fait, a déjà été tranché juridiquement il y a des décennies et des décennies. Cette contrainte les a obligés peut-être à resserrer, malgré leurs soucis de recherche, à resserrer leur vision du génocide, à en avoir une vision... Si on compare au génocide juif, on voit dans le 7e million de Séguéf que ça a aussi un peu joué dans les communautés juives. Une vision très intentionnaliste, très très sèche, très planificatrice. Bien sûr, il faut le dire, et c'est vrai, puisque ce génocide a été orchestré, organisé par les dirigeants jeunes turcs. Mais ensuite, dans la façon dont il a été mis en œuvre, il y a, et la sortie de nouveaux témoignages comme celui du consul Leslie Davis le montre, il y a effectivement toute une série de choses qui se sont passées, soit qui ont amplifié, soit au contraire qui ont détourné ce génocide et qui nous apprennent beaucoup de choses sur la façon dont ça s'est passé. Mais les communautés arméniennes ont été d'une certaine façon, et les chercheurs qui ont travaillé avec elles, ont été d'une certaine façon contraints à une vision plus sèche de ce génocide qu'elle ne pourrait l'être. Et de même, à une vision un petit peu exclusiviste. Tant que les premières reconnaissances internationales qui sont arrivées plutôt dans les années 80 n'avaient pas lieu, évidemment, la tentation était grande chez les Arméniens d'avoir une sorte de renforcement du ghetto au nom du fait que personne ne les reconnaissait, que c'était toujours la même histoire qui recommençait, celle de l'abandon, celle du mépris, etc., etc. Ce sentiment est en train de céder la place puisqu'il y a eu et il y a de plus en plus des reconnaissances, soit politiques, soit culturelles. C'est cela que j'appelle la réintégration, mais je crois évidemment que nous n'en sommes qu'au début de la réintégration, que le génocide est de plus en plus présent comme un élément essentiel de l'histoire, disons, du mal à l'époque du XXe siècle, pour ceux qui se préoccupent de cette histoire, bon, des gens comme Ronnie Broman, enfin tous ceux qui s'intéressent à la prévision, la prévention, la répression des crimes contre l'humanité, ils commencent à être un peu présents chez les historiens de la Grande Guerre, mais il ne l'est pas encore assez, et il l'est très peu, évidemment, chez les orientalistes. Et c'est évidemment là qu'il y a des pistes de réflexion à creuser, parce que ce génocide, si on réfléchit dessus, ce n'est pas simplement un moment clos, une circonstance particulière de l'histoire, mais par différents angles, il ouvre à des questions qui sont des questions tout à fait actuelles. L'une des questions, c'est la tolérance de majorités musulmanes à l'existence de minorités en leur sein. À l'époque moderne. La deuxième question, c'est celle des relations entre démocratie et modernité, qui ne s'adresse pas seulement, évidemment, aux musulmans. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe en Yougoslavie. Et la troisième question, c'est celle des leçons à tirer, et un livre récent d'Adrian a beaucoup insisté là-dessus, des leçons à tirer en termes de prévention du génocide. Enfin, je vois comme un signe particulièrement prometteur du fait que ce génocide commence à réintégrer différentes couches de conscience et à s'intégrer à différentes questions. Je vois comme un signe prometteur le débat qui a eu lieu en Israël récemment sur l'intégration ou pas du génocide arménien dans les programmes scolaires, et le fait que ce débat est en voie d'être tranché dans le sens d'une intégration de l'histoire du génocide arménien dans les programmes scolaires, ce qui évidemment est extrêmement important, puisque souvent les gens qui dénient le génocide pour défendre la Turquie s'appuient sur une idée, elle aussi exclusiviste, de la Shoah pour interdire toute comparaison, et qu'évidemment les comparaisons sont toujours porteuses de lumière, même si elles ne doivent pas aboutir à faire oublier les singularités.
Merci. Merci Michel Marian d'avoir développé en trois temps cette question de la mémoire. Je voudrais peut-être, avant de passer immédiatement la parole à mon collègue et ami Harold Alexanian, qui vient d'entrer d'Arménie d'ailleurs, il nous racontera ça, je suppose. Simplement, peut-être ponctuer ce que vous venez de dire en évoquant ce que Janine Altounian, je ne sais pas si elle est dans la salle, disait, je pense ne pas trahir sa pensée, comment transmettre l'arménien en français. Comment transmettre en français l'arménien? Je crois que... Bon, il me semble que la question qui se pose à propos de la mémoire aujourd'hui, c'est la question que j'ai envie de poser d'ailleurs à Harold Alexanian, serait celle-ci. Doit-on, et c'est la question qui traverse d'ailleurs, y compris ceux qui s'occupent s'occupe de très près de la destruction du judaïsme européen, pour reprendre les termes de Raoul Hilberg, c'est-à-dire est-ce que il s'agit de continuer à l'institutionnalisation de la mémoire du génocide qui risque de devenir un rituel vide, hein, ou est-ce qu'il s'agit de passer à l'histoire, c'est-à-dire à cette part qui serait prise entièrement en compte par le sujet vivant. Voilà, Harold Alexanian, s'il vous plaît.
Oui, alors moi je vais essayer de... Ce sera un petit peu moins structuré peut-être. J'essaie de parler d'expérience personnelle, d'expérience de soins en Arménie, ou de rencontres, sans utiliser un mot prétentieux, donc en tant que psychanalyste ou psychologue. Depuis 89, on a été amené à soigner dans différentes organisations ou à recevoir ou à écouter des personnes qui étaient censées être traumatisées par le tremblement de terre. On s'est vite aperçu que le tremblement de terre, un autre phénomène violent, réveillait tout un tas d'autres choses préoccupantes, mais surtout pas du tout digérées. Alors, à travers différents exemples, et peut-être plus ou moins bien structurés, ce que je voudrais essayer de vous dire, c'est, en ce qui concerne la transmission, c'est que tant que les Arméniens et les pères arméniens ne se préoccuperont pas de céder un héritage dont leurs enfants puissent en jouir, en profiter, ben on fabriquera ce que vous avez dit, des perroquets ou des gens qui se taisent ou qui sont dans le déni ou dans la stérilité. Ou alors, moi, dans les trois catégories que vous aviez distinguées, j'avais rajouté une autre. Je m'excuse, mais les commémorations de génocide commencent de plus en plus à m'insupporter. C'est que c'est pas le génocide ou la reconnaissance, c'est certaines commémorations. C'est ici, la quatrième catégorie, dans celle que vous avez déterminée, c'est que c'est l'exhibitionniste. L'Arménien devient un exhibitionniste et l'imperméable, c'est le génocide. Et ce qu'on a à montrer, c'est notre génocide. Alors, je me permets d'être aussi violent parce que mon pays est en train de mourir aujourd'hui. En tout cas, s'il n'est pas en train de mourir, il est vraiment dans une mauvaise santé. Pas uniquement pour des raisons de désintégration de l'URSS. On a donc l'obligation, l'impératif d'aller directement vers la vie ou de s'occuper d'aller vers la vie. C'est pour ça que dans la question de la transmission, je passerai le plus rapidement possible par le génocide. Ce que j'ai à dire du génocide, c'est ce que je vais vous citer des témoignages que j'ai entendus en Arménie en 89, 90, 91 sur des pathologies qui n'avaient apparemment rien à voir. Et puis d'abord sur un petit peu de mon histoire. Il vaut mieux parler de soi, même si on dit des bêtises. Donc j'ai mis beaucoup de temps à quitter une position qui était, c'est pas une nouveauté pour vous.